need experience in lifetime. Congratulations to everybody for...
C'est l'expérience d'une vie. Merci à tous. Premier mot du milliardaire Richard Branson, 70 ans, en plein vol. Paris réussi, je vous le disais, pour son premier vol de quelques minutes dans l'espace. Il vient d'atterrir sur la base du Nouveau-Mexique. À 3h du coup d'envoi de la finale de l'Euro entre l'Angleterre et l'Italie, ambiance de folie aux abords du stade de Wembley. Nous serons sur place. Vers la vaccination obligatoire des soignants, l'hypothèse est très probable. C'est ce qu'a dit ce matin le secrétaire d'État des Affaires étrangères, Clément Beaune, sur Europe 1, à la veille de l'intervention d'Emmanuel Macron. Enfin, nous irons sur la croisette avec le grand retour du cinéaste Nanni Moretti. On est ensemble jusqu'à 19h. Bienvenue à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Un milliardaire dans l'espace et en apesanteur, ça n'a duré que quelques minutes. Mais quelle image dans le ciel du Nouveau-Mexique, Johanna Chabas. Richard Branson, on peut le dire, a donc réussi son pari avec son vaisseau spatial Virgin Galactic.
Oui, il vient d'atterrir il y a à peine 20 minutes sous les applaudissements de la foule. Le Britannique Richard Branson est parti il y a un petit peu plus d'une heure, à 16h40. Son avion a décollé sans aucun problème. Pendant 40 minutes, l'avion était accroché, son vaisseau est monté de plus en plus haut jusqu'à atteindre 15 km d'altitude où la capsule spatiale a été larguée.
3, 2, 1, release, release, release.
Largage parfait, les flammes sortent du moteur du vaisseau qui est propulsé à une vitesse supersonique et en quelques dizaines de secondes, ça y est, il est dans l'espace à plus de 80 km d'altitude. Les quatre passagers défont leur ceinture, profitent de quelques minutes en apesanteur avant de devoir se rasseoir et de redescendre en planant. Richard Branson, tellement fier de ce succès, a fait une déclaration alors qu'il était encore dans le vaisseau. Excusez la qualité du son, mais il vient de l'espace.
C'est l'expérience d'une vie. Félicitations à tout le monde pour avoir créé quelque chose d'aussi beau. Ça a été beaucoup de boulot pour aller si loin.
Le vaisseau a ensuite atterri sans aucun souci majeur. Richard Branson a donc réussi son pari et gagné la course face à un autre milliardaire, Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, qui lui doit s'envoler dans 10 jours.
Johanna Chabas, merci. Et ce duel de milliardaires, on en reparlera justement dans quelques minutes avec le spécialiste de l'espace, Xavier Pascaud, directeur de la Fondation de la Recherche Stratégique, pour voir ce qui se joue justement. Bataille d'égo ou vrai enjeu industriel. Direction Londres maintenant, à moins de 3 heures du coup d'envoi de la finale de l'Euro, dans le stade mythique de Wembley. Les Anglais qui affrontent à domicile l'Italie, espèrent un premier sacre européen. Cyril de la Morinerie, c'était déjà de la folie aux abords du stade à midi. Ça n'a cessé, vous m'avez dit, de s'amplifier au fil de l'après-midi.
Oh oui, il y a du rouge et du blanc partout sur le parvis du stade de Wembley depuis ce matin. Les supporters chantent leur joie d'être en finale. Des fans venus de toute l'Angleterre se retrouvent ici. J'ai notamment rencontré des amis venus de Leeds, ville du nord de l'Angleterre, avec leur sac à dos. Ils ont dormi dans la rue, ils n'ont pas de billets, mais ils voulaient à tout prix se mêler à la foule et vivre ce moment d'histoire. Des supporters impressionnés par la qualité de leur jeune équipe.
Ça va être un match difficile. Je pense même qu'on va aller jusqu'aux prolongations, mais on va gagner, car on a de très bons joueurs sur le banc, comme Foden, Sancho, Grealish. On va ramener la coupe.
C'est incroyable cette ambiance. 2-1 pour l'Angleterre. On va gagner.
Vous les entendez, les Anglais sont en supériorité numérique. 55 000 sujets de sa gracieuse majesté garniront donc les tribunes du stade en présence du prince William, du premier ministre Boris Johnson. Il n'y aura pas que du rouge et blanc. D'ores et déjà, on voit un peu de vert environ. 1000 tifosi venus en charter de Rome sont présents dans une tribune encadrée par une armée de stewards. Ils seront aidés par plusieurs milliers de Britalians, ces Italiens qui vivent ici en Angleterre, et du président de la République italienne Sergio Mattarella. Mais les Anglais sont certains qu'Harry Kane, va soulever ce trophée argenté de 60 cm de haut et inscrire pour la première fois sur cette coupe Henri Delaunay le nom du pays créateur du football, l'Angleterre.
Et oui, ce serait une première alors que l'Euro fête ses 60 ans cette année. Cyril de la Morinerie aux abords du stade de Wembley qui nous fera vivre cette finale avec Jean-François Pérez qu'on retrouvera à 18h50 à quelques 2 heures donc de ce match. Et nous serons aussi en direct de Rome avec Blandine Huguenet pour voir si les Italiens n'ont pas trop peur de cette pression que font monter les supporters anglais. L'actualité sportive, c'est aussi le Tour de France, première grande étape pyrénéenne aujourd'hui, 191 km km entre Céret et Andorre-la-Vieille. Trois cols de première catégorie. Sur la ligne d'arrivée, Axel May. Une étape qui n'a pas permis à Guillaume Martin de garder sa deuxième place au général, hein, Axel.
Oui, oui, malheureusement pour les supporters du Français. Cette étape passée par le toit du Tour, le port d'Envalira, 2400 mètres d'altitude en Andorre. Et alors qu'il avait fait toute la montée au contact du maillot jaune, Guillaume Martin s'est fait distancer dès le début de la descente. Puis dans le dernier col, le col de Beikchali, situé à 15 km de l'arrivée, le grimpeur normand a encore perdu du temps. Résultat, lui qui était remonté de la 9e place à la 2e hier, après avoir pris part à la bonne échappée, est retombé ce soir à la 9e place du classement général, à près de 8 minutes du maillot jaune Tadej Pogacar. Pogacar qui a été attaqué par l'équatorien Richard Carapaz et ses coéquipiers d'Ineos, mais le Slovène n'a pas craqué. Alors la victoire, je vous donne quand même le nom, est revenu un Américain, Sepp Kuss, arrivé avec une trentaine de secondes sur le vétéran espagnol Alejandro Valverde, acclamé comme il se doit ici en Andorre. À noter l'abandon du sprinteur français Nasser Bouhanni. 20% du peloton a d'ores et déjà renoncé à voir Paris. Et il y a encore 80 coureurs là qui sont en course. Ils ont 20 minutes pour arriver, dont Marc Cavendish, le maillot vert. Sinon, ils seront mis hors délai.
Axel May sur la route du Tour. On le voit, un Tour éprouvant décidément, avec une journée de repos qui sera la bienvenue.
C'était le Point Étape. Partageons la passion du vélo et encourageons les coureurs avec Total Energy.
18h06 sur Europe 1, faut-il aller plus loin et rendre obligatoire la vaccination, et pour qui, alors que le variant Delta gagne chaque jour du terrain? La question sera au cœur de l'intervention d'Emmanuel Macron demain soir depuis l'Elysée à 20h. Ce matin sur Europe 1, Clément Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, a bien dit que la vaccination obligatoire pour les soignants était une hypothèse très probable. Mais vous allez entendre, pour le professeur Jean-François Mattei de l'Académie de médecine, il faut même aller plus loin et rendre la vaccination obligatoire pour toute la population dès l'âge de 12 ans.
Moi, j'y vois au moins trois raisons. La première, c'est qu'on n'atteindra pas l'immunité collective sans eux. S'il faut 90% de la population, sans eux, on n'y arrive pas. La deuxième raison, c'est que c'est peut-être à 12 ans le moment de leur faire comprendre les valeurs de solidarité, de responsabilité et les intégrer dans la communauté nationale. Je rappelle qu'on commence à discuter du droit de vote à 16 ans. Quand même, il y a un peu une contradiction. Et troisièmement, la raison presque la principale, c'est que la rentrée scolaire et universitaire, c'est début septembre. Et que s'ils ne sont pas vaccinés, nous allons de nouveau risquer de compromettre au moins un premier trimestre d'enseignement, d'éducation, de pédagogie. Et que si on ne veut pas fermer des classes, fermer des établissements, des universités, il faut qu'ils soient vaccinés.
Jean-François Mattei de l'Académie de médecine, qui était l'invité d'Europe 1 ce midi, noté par ailleurs que concernant les déplacements à l'étranger, Clément Beaune a une nouvelle fois déconseillé aux Français de se rendre au Portugal et en Espagne où la situation épidémique est préoccupante. Le secrétaire d'État qui a ajouté « Je ne suis pas un enfermiste, je suis pour la libre circulation en Europe ». Mais quand on voit, quand on fait ses choix de vacances, on doit savoir qu'en Espagne et au Portugal, la situation est donc préoccupante. D'ailleurs, ces deux pays ont pris des mesures car ils reconnaissent que la situation est difficile. Fin de citation. Vous avez été en tout cas nombreux à prendre le large ce week-end. On le rappelle, plus de 1100 km de bouchons hier au pic. Mais à destination, ce matin en Normandie, Nicolas Feldman a suivi des baigneurs très matinaliers et très heureux à Cabourg.
On est sur la plage de Cabourg. Un petit soleil qui traverse les nuages et peu de baigneurs, si ce n'est une dame là-bas qui a les chevilles dans l'eau, mais ça va pas au-delà.
Bonjour.
Vous êtes avec madame ?
Oui, elle n'est pas frileuse.
Ah, c'est froid ?
Oui, oui, oui. Bah, mettez le pied, vous allez voir.
Je suis venue de Paris. Y a de l'air, c'est un l'air qui réveille. Mais celui de Paris nous fait dormir.
On a fait un jogging, ce qui est hyper agréable, et après on se baigne, on fait la totale. Elle est fraîche, mais on a toujours notre récompense une fois qu'on l'a fait.
On a une idée de combien elle est là ?
Je pense qu'elle est à moins de 20. La technique, c'est qu'il ne faut pas lutter et se raidir, il faut s'offrir au froid.
Elle est très bonne. Et comme il ne fait pas très chaud dehors, on rentre très très facilement finalement. Et on y reste facilement aussi. Je vais aller mettre sous une douche d'eau chaude, faut le dire.
Ben on va prendre la direction de la Croisette où on retrouve Mathieu Charrier. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Chef du service culture d'Europe 1, je ne vous demande pas si c'est l'heure de la baignade. Il doit faire un petit peu plus chaud hein, chez
ah,
vous.
Beaucoup quand plus même. Chaud, il y a beaucoup de baigneurs, je vous garantis. Voilà. Je crois que l'eau est à 24 précisément.
Bon allez, on va parler cinéma quand même. Ce soir, c'est le grand retour du cinéaste italien Nanni Moretti, un habitué hein, de la Croisette. Hein.
Eh oui, après avoir décroché la Palme d'Or il y a 20 ans maintenant déjà pour son film La Chambre du Fils, Nanni Moretti effectivement et son équipe vont monter les marches dans un petit peu plus d'une heure pour présenter Tre Piani, son 15e long métrage, inspiré d'un polar israélien qui s'appelle trois étages, c'est la traduction donc, et c'est l'histoire des habitants d'un immeuble de trois étages qui vont voir leur quotidien chamboulé. Juste après, autre film en compétition, le nouveau long métrage de la française Mia Hansen-Love, Bergman Island. Ça, c'est l'histoire d'un couple de cinéastes qui s'installe sur l'île de Faro le temps d'un été. Faro où a vécu le grand réalisateur Ingmar Bergman, film qui sort en salle d'ailleurs mercredi prochain si vous voulez aller le voir, et qui vient clôturer, il faut bien dire, une première semaine de sélection de très haut niveau. Et quelque chose nous dit que ce n'est pas terminé, puisque demain, on découvrira le nouveau film de Wes Anderson, très attendu, tourné entièrement à Angoulême. Puis un peu plus tard, le film de Jacques Audiard notamment. Donc voilà, sur l'écran, il y a plein de jolies choses.
Alors Mathieu, on est à mi-parcours hein, du festival. Oui. Sur la Croisette, c'est quoi les impressions, l'ambiance? Parce que ce festival a été décalé au début de l'été. Normalement, on est en mai hein, au Alors, festival. Ouais.
C'est vrai que c'est un festival franchement qui ressemble à aucun autre. Déjà, vous avez masque dans les salles avec un message du président Pierre Lescure au début de chaque séance pour inciter à bien le garder sur le nez. Ça, ça a été rajouté puisque, il faut bien le dire, en début de festival, ça patinait un peu. Mais ça y est, ça semble désormais respecté. En revanche, sur la Croisette, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas du tout l'ambiance de d'habitude. Vous avez très peu de fêtes. Vous savez, habituellement, elles ont notamment lieu justement sur les plages. Et bien là, les plages, publiques comme privées, elles accueillent des baigneurs comme tout mois de juillet. Finalement, il y a plus de touristes que de festivaliers et donc des montées des marches qui sont assez calmes. Vous savez, on a souvent dit ces dernières années que le glamour et la fête prenaient peut-être trop le pas sur le cinéma à Cannes. Ben, je peux vous dire que cette année, c'est tout l'inverse.
Ben voilà, on est sérieux, on reste dans les salles obscures. Merci beaucoup, Mathieu Charrier. Il nous reste à voir le temps que nous réserve ce début de sommeil. C'est pas vraiment folichon, Marlène Duret. Ce sera pluvieux, orageux.
Oui Fabienne, avec de bons orages déjà ce soir dans les Pyrénées. Alors ces remontées orageuses, on va les retrouver sur un axe Aquitaine Massif Central ce lundi matin avant d'atteindre la région centre et la Bourgogne. Les pluies de la veille, arrivées par la Bretagne, souvenez-vous, en se décalant vers l'est, viendront se fondre dans cette zone instable, feront une petite boucle et reviendront par la Normandie et les plages du nord. On les attend copieuses et orageuses par endroits. L'après-midi, toutes les régions seront concernées par un temps pluvieux et localement orageux, avec une accentuation des pluies dans la soirée de lundi à mardi sur la partie centre-est-nord-est. Les cumuls de pluie sont à surveiller. Les seuls finalement à échapper à ce temps pourri, disons-le, eh bien ce sera la Provence-Alpes-Côte d'Azur, sans oublier la Corse, toujours sous le soleil. Dégringolade des températures dans le sud-ouest, on perdra 8 à 10 degrés. Il fera 19 à Biarritz, 21 à Toulouse, mais nous aurons toujours 27 à 32 dans le sud-est et même jusqu'à 33 en Corse. Ailleurs, comptez 17 à Cherbourg, 21 à Clermont-Ferrand, 23 à Paris et Besançon ou encore 26 degrés à Montpellier.
Merci Marlène Duret.
Europe Soir Weekend, Fabienne Lemoyle.
Il l'a dit, c'est l'expérience d'une vie. Richard Branson s'est offert quelques minutes en apesanteur dans l'espace. Il a grillé la politesse à Jeff Bezos qui décolle lui seulement dans une semaine. On va demander au spécialiste de l'espace Xavier Pascaud, directeur de la Fondation de la Recherche Stratégique, ce qui se joue avec ce duel de milliardaires. Il est mon invité dans un instant.
Europe Soir, Fabienne Lemoyle.
18h15 sur Europe 1 et ça y est, donc Richard Branson atterrit il y a quelques minutes sur la base du Nouveau-Mexique. Il a réussi son pari avec ce décollage puis ce largage de son vaisseau spatial et cette image dans le ciel avec cette accélération pour rejoindre la limite, l'espace. Bonjour Xavier Pascaud.
Bonjour.
Directeur de la Fondation de la Recherche Stratégique. Quel regard le spécialiste de l'espace que vous êtes porté sur ce vol? Vrai exploit? Coup de com'? Puisqu'il y a seulement quelques minutes en apesanteur.
Ben, oui, c'est un vrai exploit parce que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait avant et qui est un peu original parce que ça n'utilise pas une fusée mais un avion porteur. Et puis, ça donne voilà, une image un peu nouvelle d'un avion spatial véritablement qui va faire un petit tour effectivement en l'espace et qui réatterrit ensuite. Ce qui avait réatterri jusque-là, c'était surtout des navettes spatiales américaines. On l'oublie un peu, une navette soviétique aussi, il l'avait fait une fois. Mais on n'avait pas d'autres exemples. Alors, en contrepartie de ça, c'est vrai que ça reste un... On hésite entre savoir s'il s'agit d'un exploit spatial ou d'un exploit aéronautique, parce que c'est un vol très aéronautique.
Oui, parce que d'ailleurs, dans la navette aussi, ils n'ont pas de scaphandre. Hein. Voilà, ce ne sont pas des cosmonautes, des spationautes.
C'est un avion qui va très très haut et qui, par ailleurs, est propulsé par un système de moteur fusée, ce qui est très particulier. Il y a peu d'avions et pas d'avions qui sont propulsés. Il y a quelques prototypes, mais aujourd'hui, ce sont surtout des fusées. Mais on est un peu à la marge des mondes, si vous voulez.
Alors, on a beaucoup parlé de duel de milliardaires, hein, puisque Richard Branson a volé en quelque sorte la vedette à Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui lui va décoller dans une semaine avec un autre système, une autre technique, une fusée avec une capsule. Qu'est-ce qui se joue ? Est-ce que c'est une bataille d'ego ou il y a un vrai enjeu industriel, sachant qu'il y en a aussi un qui cavale en tête, j'ai envie de dire, c'est Elon Musk avec SpaceX, qui est le lanceur officiel de la NASA.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a trois champions qui sont un peu sur la ligne de départ, mais qui courent des courses un peu différentes, à vrai dire. Richard Branson vient là d'accomplir l'exploit qu'il compte utiliser comme, je dirais, pour son business, pour
ses affaires. Un argument commercial.
Voilà.
Mais à la fois, il faut reconnaître, hein, il a pris lui-même la place dans l'appareil pour montrer c'était fiable.
C'est le fruit d'une passion personnelle et c'est ce qu'il compte exploiter commercialement. C'est ce type de vol que les gens pourront s'acheter s'ils le peuvent. Jeff Bezos, lui, eh bien, à la fois, il veut ce type d'activité, alors un peu plus haut. Alors, il y a eu une guerre un peu de communication avec sa société Blue Origin qui a dit « Oui, mais ce que fait Virgin, ce n'est pas tout à fait de l'espace, parce que l'espace, c'est au-dessus. » Enfin, bon, on voyait bien que ça était petite.
Oui, parce que cette limite, on doit atteindre...
Voilà, la limite, ce qu'on appelle la limite de Kármán, c'est... En fait, aujourd'hui, il n'y a pas de définition de où commence l'espace. Mais on a coutume de dire c'est au-dessus de 100 km. Alors, évidemment, Branson est un peu en dessous. Mais en même temps, il recevra son petit pins, j'allais dire, d'astronaute, la société des astronautes. Donc tout ça est un peu gadget. Mais ce que fait Bezos aussi, c'est que lui, il a d'autres activités qui sont des activités plus liées à l'envoi de matériel d'abord et puis plus tard d'hommes dans l'espace véritablement, dans la station, qui feront des orbites autour de la Terre, etc. Et puis quant à Musk, qui a lui aussi avait un peu un moment cette idée de faire un peu de tourisme spatial, lui vraiment, il voit l'espace en grand. À la fois en termes de fusées, à la fois en termes de capsules qui, d'ailleurs, aujourd'hui, emmènent directement des astronautes. Et puis plus loin
Thomas
encore...
Thomas Pesquet dans l'ISS.
Une capsule Dragon vient de ramener du cargo sur Terre. Et il compte bien être partie prenante, j'allais dire, de l'effort logistique considérable que va provoquer le programme lunaire, etc. Donc on est dans des courses un peu différentes, mais qui se touchent un peu les unes les autres.
Et c'est ce que vous appelez aussi le New Space, c'est-à-dire qu'en fait, les États sont en train de s'effacer quelque part, ou les agences gouvernementales, on va dire, hein, derrière des acteurs privés, ce qui n'est pas forcément le cas, évidemment, du côté des Chinois et des Russes.
Non, c'est vrai. Alors, effectivement, les États, aujourd'hui, sont tentés, voyant cette efflorescence d'activités privées, avec quand même des exploits qui sont réalisés, des gros lanceurs qui sont construits, eh bien, veulent tirer parti de ça en déléguant finalement à ces gens-là des services. Aujourd'hui, un État ne va plus acheter nécessairement une fusée, il va acheter un service de transport.
Ça coûte combien, enfin, qu'on se rende compte justement ?
On est dans des échelles de ordre de grandeur de milliards, de plusieurs milliards de dollars. Et là, Elon Musk a très bien su tirer parti du besoin qu'avait la NASA de se relancer dans le transport d'astronautes, etc., en gagnant des contrats de plusieurs milliards, voire plus d'une dizaine de milliards de dollars. Donc ça, ce sont des gros budgets. Ce que vient de faire Branson, c'est quelque chose de très différent, même si ça a pris du temps, et il n'a pas le soutien de la NASA pour le faire, et ça reste une activité de niche. Donc c'est très différent. Tout ça est quand même très, très, très différent.
Alors justement, vous parlez, Xavier Pascoe, je rappelle, directeur de la Fondation de la Recherche Stratégique, de niche, effectivement. C'est ce qui fait un peu rêver le tourisme spatial. Ça veut dire que vous, moi, on pourrait demain, à condition d'avoir un gros compte en banque quand même, partir dans l'espace. Parce que c'est combien le prix du billet ? Ça peut vraiment baisser ?
Aujourd'hui, bon, on dit pour Branson, c'est entre 200 et 250 000 dollars. Pour Bezos, on n'est pas trop sûr. Certains parlent de 600 000 dollars. Donc, il faut avoir effectivement... Le critère discriminant, c'est la richesse du client, effectivement. Après, il faut avoir quand même une condition physique qui permette de le faire. Mais alors là, le but... et de Bezos et de Branson, par exemple, c'est justement de faire en sorte qu'un individu de santé moyenne, de forme moyenne physique, puisse le faire. Et on casse un petit peu comme ça l'élitisme qu'il y a autour du corps des astronautes. Maintenant, quand il s'agira d'aller dans une station spatiale, éventuellement de faire des activités extravéhiculaires, là, de toute façon, il y a des critères de physique qui sont déterminants. Mais donc, on voit bien qu'on essaye de peupler l'espace par le bas, si j'ose dire. C'est-à-dire que en altitude, et puis en faisant des activités qui ne sont pas des activités trop compliquées à faire et qui permettent quand même d'avoir l'expérience d'un voyage en apesanteur.
Et on le voit quand même, je terminerai avec ça, ça fait quand même toujours rêver. On vend du rêve aussi, ou alors on va développer des technologies justement à partir de ce qu'on voit là pour des choses qui vont nous servir sur Terre.
Alors, à partir de ce qui a été fait là, non, sans doute pas. En revanche, effectivement, on incarne l'espace. En fait, l'espace, depuis des années, après le voyage Apollo dans la Lune, qui a vraiment été un fort symbole, a été marqué surtout par de l'exploitation de satellites. Et on s'est rendu compte que le grand public, en fait, se désintéressait graduellement. Le fait de remettre un peu de d'incarner, j'allais dire, que ce soit par le biais de ces milliardaires ou des astronautes qu'ils transportent, a aussi pour but, et ça, ça convient très bien aux États, de relancer l'intérêt du grand public pour l'espace. Et aujourd'hui, par exemple, eh bien, le prochain grand programme qui est censé fédérer les énergies, c'est le programme de retour sur la Lune. Et ça, ça donne lieu à des compétitions entre États, pour le coup, États-Unis,
et
Chine.
Je termine juste avec ça. C'est quoi l'enjeu, justement, comme à l'époque de la guerre froide, d'être le premier ?
Ben, l'enjeu, on se rend compte que oui, ça demeure, l'espace demeure quand même un symbole de puissance, un symbole de modèle de société compétitif, en compétition avec les autres. Et c'est un peu une course. Alors, on n'est pas dans la même course à l'espace que pendant les années 60, où là, il y avait vraiment un affrontement direct. Mais on voit bien que pour la Chine, mais pour les États-Unis aussi, pour la Russie, voire pour l'Inde, eh bien, c'est aussi un moyen de communiquer sur leur développement, sur leur état, je dirais, d'avancement dans les technologies, dans la science, etc. Et ça, c'est toujours très bon pour un pays.
Se mesurer effectivement l'un à l'autre. Merci beaucoup Xavier Pascaut, je rappelle directeur de la Fondation de la Recherche Stratégique, d'avoir été avec nous pour décrypter justement ce vol assez exceptionnel, l'expérience d'une vie, disait quand même effectivement Richard Branson, qui a osé le faire lui-même, voilà, il faut quand même le dire. Merci à vous. 18h
soir week-end, Fabienne Lemoyle,
22 sur Europe 1. À suivre, quoi de mieux pour se délasser quand on est en vacances qu'un bon roman? Qui mieux que pour nous en parler, le monsieur livre d'Europe 1, Nicolas Caro, c'est dans un instant.
Europe Soir, Fabienne Lemoyle.
18h24 sur Europe 1, et c'est donc, je vous le disais d'habitude, qu'on va avoir plaisir à prendre tout l'été les conseils du monsieur livre d'Europe 1, Nicolas Caro. Bonsoir Nicolas.
Bonjour.
Et donc, vous vous attaquez cette fois à un monument de la littérature, à la recherche du temps perdu de Marcel Proust.
Un monument, une montagne même, sept tomes de Du côté de chez Swann jusqu'au temps retrouvé, il faut s'armer de patience et d'un peu de courage pour entamer l'ascension, c'est difficile, mais qu'on l'ait lu ou non, on connaît au moins deux choses sur la recherche. La première phrase d'abord.
Eh oui, longtemps je me suis couché de bonne heure.
Parfait, la suite c'est « Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « Je m'endors ». Et on connaît aussi la Madeleine de Proust. Dans le premier tome du côté de chez Swann, le narrateur plonge une Madeleine dans son thé et ce mélange de miettes de gâteau et de thé lui fait faire une sorte de voyage dans le temps émotionnel. Tout lui revient d'un seul coup, tous ses souvenirs, l'ambiance, les odeurs. Il est transporté à Combray, le village de son enfance, simplement par le goût de cette Madeleine trempée dans son thé. Tout le monde a fait cette expérience. Proust, lui, la met en mots. Le talent est là, selon l'écrivain Philippe Besson, grand admirateur de l'œuvre.
La force de Proust, c'est de l'avoir conceptualisé et d'en avoir fait presque une marque de fabrique. C'est-à-dire que, justement, il met des mots sur des choses qui nous arrivent quotidiennement. C'est-à-dire qu'on est les uns et les autres renvoyés à notre propre, je sais pas, passé ou à notre propre jeunesse en permanence. On bute sur un caillou, on revoit un visage, on entend une musique et on se dit, tiens, c'est un jingle que j'entendais à la télévision quand j'avais 8 ans. On a oublié ce jingle, on ne savait même plus qu'il existait. Et tout d'un coup, quand on l'entend à nouveau, tout nous revient. Et c'est la force précisément de Proust, c'est d'avoir mis en mots cette capacité que nous avons à garder une mémoire affective.
Oui, mais Nicolas, la recherche du temps perdu, ce n'est pas qu'un livre de souvenirs.
Non, parce que les souvenirs et les observations du narrateur nous ramènent aux nôtres. Et puis, il y a cette galerie de personnages. Il y en a des dizaines, 200 en tout. Il faut presque prendre des notes pour s'y retrouver. Ils constituent tous une comédie humaine où tout se mêle, l'amour, la jalousie, les différences sociales, la vie. C'est une œuvre unique.
Il n'y a rien qui se compare à ça, avant ni après. La recherche du temps perdu, c'est l'exemple, peut-être unique, de l'œuvre incomparable. Incomparable au sens, ne peut se comparer à rien. Il n'y a pas d'autre exemple dans la littérature mondiale, encore moins française, d'une œuvre au long cours, comme celle-ci, aussi enchevêtrée, avec des phrases aussi longues, alambiquées, avec tout un univers. Il n'y a pas d'autre exemple que celui-là. On le regarde en levant les yeux. Voilà. Je pense que c'est pour ça que c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, cette œuvre considérable. Parce qu'on sait que c'est un monument qu'on ne pourra pas gravir.
Un chef-d'œuvre donc, Nicolas, mais refusé par Gallimard.
Effectivement, ça peut peut-être rassurer certains écrivains non publiés. Enfin, tous ne sont pas Proust, sans doute. Mais effectivement, la grande maison d'édition a refusé le manuscrit. Elle s'est vite ravisée et elle a publié la suite. Le livre a été écrit dans les années 1910. Marcel Proust meurt en 1922. Les derniers tomes seront publiés après sa mort. Et le village d'Illier, dans l'Eure-et-Loire, le village dans lequel il avait passé son enfance, sera rebaptisé en 1971. Illier-Combray, comme dans le roman, en hommage à l'auteur.
Eh bien, relire donc Nicolas Carreau, merci. D'ici la fin de l'été, les sept tomes quand même, de À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Allez, à 18h27, ça s'imposait à 2h du coup d'envoi à Wembley de la finale de l'Euro, l'hymne officiel de la compétition, We Are The People, tout de suite sur Europe 1.
A million volts in a pool of light. Electricity in the room tonight. Born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you fail and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Heart that works from a broken place, that's where the victory's won. 'Cause you fail and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right.
The People, l'hymne officiel de l'Euro, signé Martin Garrix, avec, vous l'avez tous reconnu bien sûr, Bono et cette finale. On va en reparler juste avant 19h, nous serons à Londres. Ambiance de folie, on l'a entendu avec Cyril de la Morinerie et les supporters des Three Lions. Et on verra si c'est la même folie à Rome avec notre correspondante Blandine Hugonnet. Changement d'ambiance dans un instant, on va partir en balade en Haute-Marne avec la carte postale d'Arthur Mbaché dans le parc national des Forêts. Mais d'abord le rappel des titres.
Europe Soir Weekend, Fabienne Lemoyle.
18h31 et c'est avec vous Damien Mestre.
Il vient d'atterrir sans encombre. Le milliardaire britannique Richard Branson nous revient tout juste de l'espace. Son vaisseau Virgin Galactic, les deux pilotes et les trois autres passagers ont atteint un pic à près de 90 km d'altitude. Une expérience unique dans une vie, selon les premiers mots du milliardaire. Il est actuellement sur le tarmac de sa base au Nouveau-Mexique, tout sourire dans les bras de ses proches. C'est un tournant dans l'histoire du tourisme spatial, mais c'est aussi une petite victoire dans la bataille qui l'oppose à Jeff Bezos, puisque le tout-puissant patron d'Amazon se rendra en lui dans l'espace dans une dizaine de jours. Face à la propagation du variant Delta du coronavirus, faudra-t-il rendre le vaccin obligatoire pour tout le monde. Ce n'est même pas encore le cas pour les soignants, que déjà certaines voix s'élèvent ce week-end. François Bayrou, le haut commissaire au plan, estime ce midi qu'il n'y a pas d'autre issue possible. Ce matin, c'est Bernard Kouchner, ancien ministre, qui abonde en ce sens. Les réticents au vaccin sont des alliés du virus, dit-il dans le journal du dimanche. Sa garde à vue a été renouvelée cet après-midi. L'homme de 62 ans qui a tué hier un jeune vendeur de 18 ans à coups de couteau avant d'en blesser gravement un deuxième en Seine-et-Marne. L'attaque a eu lieu dans un centre commercial à Clessouilly. Le deuxième vendeur de 20 ans est lui toujours à l'hôpital. On y revient dans le journal de 19h. Le professeur lyonnais Jean-Michel Dubernard est mort à l'âge de 80 ans ce soir. C'était un pionnier mondial de la transplantation. On se souvient de cette main greffée sur un homme ou de cette greffe de visage sur une patiente défigurée. Le cyclisme et le Tour de France, 15e étape dans les Pyrénées. Aujourd'hui, les coureurs sont montés sur le toit du Tour, 2400 mètres d'altitude. Une arrivée dans la principauté d'Andorre et c'est l'américain Subkus qui l'emporte en solitaire. Tadej Pogacar reste lui en jaune ce soir. Et puis l'autre actualité sportive de la journée, c'est bien sûr l'Euro de football. Coup d'envoi à 21h de la finale Italie-Angleterre. Les rues de Londres débordent déjà de monde. C'est à Wembley qu'a lieu la rencontre et les Anglais n'ont pas remporté de titre dans une compétition internationale depuis 55 ans.
Merci beaucoup Damien Mestre et on vous retrouvera dans une demi-heure pour le journal de 19h.
Écoutez le monde changer. Europe Soir Weekend.
Allez, on va prendre le large avec notre série de l'été. Nous étions hier à 7h avec le général de Gaulle en vacances dans son domaine de la Boisserie en Haute-Marne. Ce soir, la carte postale d'Arthur Mbaché va nous emmener découvrir un lieu méconnu. C'est à quelques kilomètres de Colombelles-les-Deux-Églises. C'est un parc national, pas un parc naturel régional, non un parc national comme le Mercantour ou les Écrins. Le seul au nord de la Loire, le plus proche de Paris. Le parc national des forêts, où nous emmène donc Arthur Mbaché.
Il y a, paraît-il, ici plus de chevreuils que d'habitants. Le dernier né des parcs nationaux français est en plaine, alors pour avoir une jolie vue, rendez-vous sur la canopée à 17 mètres de hauteur.
On va grimper sur ce hêtre-là parce qu'il est beau d'un point de vue arbre. Hein, il a quand même un beau fût, il a des grosses branches charpentières qui partent très vite. Et là, le but du jeu, c'est qu'on papote dans l'arbre. Ouais. Donc, il va falloir que vous montiez, que je vous assure. Et une fois dans l'arbre, il faudra vous longer autour d'une grosse branche ou autour du tronc.
Sylvain Boulangeau est animateur à la Maison de la Forêt à Le Glay.
Allez, on s'équipe. C'est parti.
Voilà. Ouais, il faut réussir à mettre votre jambe gauche sur la branche qui est à gauche.
Celle-là ?
Non, plus bas. Bah, ça me paraît sympa, là, Arthur, ouais. Vous pouvez vous sécuriser.
Nous voilà. Sylvain est en train de grimper pour me rejoindre. Je suis en haut d'un hêtre. Au-dessus de la forêt.
Ouh. Arthur.
Alors voilà, l'objectif, c'est vraiment d'aller le plus haut. Ces arbres-là, c'est clair, il a plus de 100 ans, ce hêtre-là. Peut-être 120 ans, 130 ans. Il n'a jamais vu personne grimper dans lui, à part des écureuils, des martres et des chats forestiers. Et là, il accueille des humains. On monte dans les arbres et on comprend beaucoup mieux l'implantation d'un parc national de forêt sur des grandes entités. On n'est pas sur les 55-57 parcs naturels régionaux de France, on est sur le 11e parc national. Donc on se met au même titre que Yellowstone, pour citer le premier, et les grands parcs qu'il peut y avoir en Allemagne ou en Pologne. On a la chance d'être très sauvage, très préservé.
C'est quoi votre meilleur souvenir en haut des arbres ?
En haut des arbres, c'est une compagnie de sangliers qui nous passe au pied, qui nous a pas repérés. On entend la lémeneuse qui est en train de grogner, qui fait... En train de dire aux petits, restez par là, c'est bizarre, ça sent l'homme, mais je comprends pas trop pourquoi. C'est le fait qu'on arrive à oublier qu'on existe. Et une fois qu'on a compris qu'on était une espèce de petite poussière sur un territoire qui existait et qui existera après nous, on est à notre place.
Retour sur terre à l'abbaye du Val des Choux, ancien monastère, 12e siècle, perdu dans la forêt, lové au creux d'un vallon. Le propriétaire, c'est Michel Monod, très impliqué dans la création du parc national.
Ça vient complètement résonner avec nos projets, il n'y a pas d'erreur. Notre région, d'un point de vue social, économique et donc touristique, elle est en complète déprime.
On est
donc
dans ce qu'on appelle la diagonale du vide ici, hein, pile poil.
Ah, hein. Oui, on est dans l'œil du cyclone de la diagonale du vide, c'est-à-dire que c'est vide partout, mais là encore plus qu'ailleurs.
La petite bizarrerie, en tout cas ce qui va sans doute vous surprendre, c'est ça. Quand parc national rime avec chasse à cour.
Ah ben c'est donc un élevage à proprement parler, à 150 chiens au chenil. La race, c'est français tricolore. Et ceux-là, ils sont blancs, noirs et orange, donc ils sont dits tricolores. Là où le parc national télescope nos projets, c'est qu'on y pratique ici la chasse. La question s'est jamais vraiment posée dans le passé, puisque les écrins, la Vanoise, le Mercantour, on est à plus de 3000 mètres d'altitude et où la chasse ne s'opposait pas forcément par définition. Là, on est à 300 mètres d'altitude, il y a des tas de forêts entourées de plaines agricoles. Le parc l'a très bien compris, il y a une sorte de paradoxe, c'est que le premier prédateur de la forêt, ce sont les grands cervidés qui sont herbivores et qui donc boulottent la forêt s'ils ne sont pas régulés en termes de nombre. Donc régulés et prélevés, autant dire les choses par leur nom, ont tué.
Bon, si vous n'êtes pas très chasse, vous devriez vous y retrouver quand même. Le parc national des forêts fait 241 000 hectares, grosso modo un demi-département. Il y a ici des centaines de kilomètres de sentiers de randonnée et les célèbres, mais très discrets, chats sauvages et cigognes noires, quelque part entre la Haute-Marne et la Côte d'Or. Arthur Elmbaché, Europe 1.
Europe Soir Weekend. Fabienne Lemoyle.
Et puis après cette balade en Haute-Marne, tout l'été encore, Pierre Herbulot va nous faire saliver avec les recettes des grands chefs qu'il a rencontrés. Ce soir, au menu, le yaourt à la cerise de Brandon Dehan.
C'est bientôt la fin de la saison des cerises, alors je vous propose de profiter des derniers fruits pour un dessert très estival, celui de Brandon Dehan. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le pâtissier de Lousteau de Beaumanière, le restaurant 3 étoiles de Glenviel au Beau-de-Provence. On a des cerises devant nous, chef, c'est parti, je vous suis.
Cerises de gros calibre, hein. On va juste les dénoyauter, on va enlever le noyau à l'intérieur. Donc on va prendre une toute petite pince, hein. Vous savez, la petite pince qu'on a dans la caisse à outils à la maison. Là. Vous la prenez et vous venez juste récupérer les petits noyaux là.
Incroyable comme astuce ça.
Et ça s'enlève tout seul. On a préparé en amont un petit sucre mixé avec du basilic. Et ensuite on va venir donc poêler les cerises avec.
Donc on a un sucre parfumé au basilic.
Exactement.
Incroyable.
On va juste écouter quelques feuilles de basilic hein, pour mettre dans la poêlée. Là, la cuisson va vraiment être rapide. Hein. Ce qu'on veut, nous, c'est juste cuire très très légèrement les cerises de façon à ce qu'elles restent croquantes, en même temps juteuses, mais qu'elles soient légèrement cuites, on va dire, à l'extérieur. Okay. Donc on va venir vraiment... On peut chauffer notre petite poêle, on va dire, à blanc, donc sans rien dedans. On va rajouter notre petit sucre. Donc là, on laisse sur feu vif. On rajoute une petite cerise. Hop. On vient déglacer... avec le petit jus de cerise, voilà, et là on va venir rajouter les petites feuilles de basilic. Ce qu'on veut, c'est vraiment, voilà, on vient remuer directement.
On enrobe bien les cerises.
Exactement, le but c'est d'enrober les cerises, hein, leur mettre le maximum de jus. Il ne faut pas trop mettre de jus, parce que si on met trop de jus, ça va compoter. Et là, à ce moment-là, on va les arrêter.
On a mis nos cerises au frais juste pour qu'elles arrêtent de cuire. Hein.
Exactement, on les a mis un tout petit coup, comme ça stoppe direct la cuisson. Et au moins, elles ne continuent pas de cuire et on reste vraiment croquant.
Ça marche.
On va préparer notre petite mousse de yaourt, un petit fromage blanc avec un tout petit peu de crème épaisse et du sucre, comme une chantilly.
Là on y va au batteur. Hein.
Exactement, on y va au batteur, on y va vraiment. Hop. Il faut faire attention de ne pas trop la monter parce que si on la monte de trop, elle va trancher, donc ça va faire du beurre et là c'est plus utilisable. Voilà, comme ça. Hop.
Donc là on met notre petite chantilly au yaourt sur le côté.
Ouais c'est ça, j'ai mis dans un petit pot parce que le but c'est d'avoir quelque chose de gourmand. On va venir la rajouter à la cuillère devant les convives, c'est ça qui est côté un partage.
Pour le dressage, on récupère une belle assiette et surtout les cerises qu'on avait mis au réfrigérateur tout à l'heure.
Donc là, on va venir juste les ranger à l'intérieur un peu joliment autour d'un cercle. Voilà, donc on vient mettre quelques petits traits d'huile d'olive à l'intérieur. Tac.
C'est magnifique. Hein.
Rien de compliqué, on a juste de la gourmandise.
Ça marche. Voilà.
On goûte. Allez, on goûte. Hein.
Brandon, on s'est installé dehors hein, pour ouais. Goûter. On est pleine nature, soleil. C'est splendide. Délicieux.
Il y a quand même ce côté vraiment frais avec le basilic qui vient apporter de la fraîcheur, la cerise qui est juste croquante, et puis le yaourt qui vient apporter la gourmandise. Quoi.
C'est frais, c'est simple, c'est délicieux, c'est beau, c'est toutes les cases sont cochées.
Bon, on remplit le contrat.
C'est bon, c'est parfait. Merci beaucoup, Brandon.
Merci, à bientôt.
À bientôt.
Brandon Dehan, sa recette, le yaourt à la cerise, avec évidemment la recette sur Europe1.fr et les photos de Pierre Herbulot pour vous faire encore plus saliver.
Europe Soir Weekend, Fabienne Lemoyle.
Et dans un instant, l'entretien de Philippe Legrand avec comme invité Marion Jolès-Grosjean. Elle va revenir sur l'accident très marquant de son mari, pilote de Formule 1, Romain Grosjean. C'était il y a quelques mois.
Écoutez le monde changer. Europe Soir Weekend. Une date, une histoire.
Bonsoir Philippe Legrand.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Retour en 2020, direction le Moyen-Orient, le choc en Formule 1. Bonsoir Marion Jolès-Grosjean.
Bonsoir Philippe.
La passion du sport que vous commentez à la télévision a fait de vous l'une des grandes spécialistes de la Formule 1. Vous avez même été sacrée par les pilotes eux-mêmes en 2010, plus belle femme du paddock. Marion Jolès-Grosjean, Automoto, c'est vous, mais aussi la Coupe du monde de football en Afrique du Sud, en direct sur TF1, le rendez-vous sport, pour ne citer que cela, c'est encore vous. Le sport n'a plus de secret pour elle, c'est l'homme de votre vie, le père de vos enfants qui le dit, un certain Romain Grosjean, il en sait quelque chose. Marion Jolès-Grosjean, ce soir, vous avez choisi de revenir sur le 29 novembre 2020, le jour où sur le circuit du Bahreïn, votre mari pilote frôle la mort à plus de 200 km/h. Romain Grosjean en témoigne sur Europe 1.
Au début, je n'ai pas réalisé qu'il y avait le feu, puisque je n'avais pas de feu dans le cockpit. Donc j'ai essayé de sortir, je me suis rendu compte que j'étais bloqué par quelque chose, donc je me suis rassis, je me suis dit que j'allais attendre. Et puis j'ai regardé du côté gauche, là j'ai compris qu'en fait il y avait des flammes, donc j'ai voulu ressortir. J'ai pensé à pas mal de choses, à Niki Lauda notamment, qui son accident est extrêmement connu en monde de la Formule 1, elle avait brûlé vive dans sa voiture. Et j'ai pensé que ça ne pouvait pas se terminer comme ça, il fallait que je sorte, j'ai réessayé. Là il y a eu un moment un peu moins drôle, puisque j'ai vu la mort.
J'ai vu la mort. Nous dit-il ce qu'il a ressenti, ce qu'il a vécu, votre mari Romain Grosjean. Ce 29 novembre 2020, vous avez choisi d'y revenir. Évidemment, c'est l'émotion. Vous êtes devant votre téléviseur, vous suivez la course à distance. Il est sur ce circuit que vous connaissez au Bahreïn.
Oui, absolument. Je suis devant la télé quand je ne suis pas sur place. Alors, curieusement, Bahreïn, c'est un grand prix sur lequel je ne suis jamais allée, alors que Romain, tous les ans, me disait tu dois venir parce que vraiment c'est sympa, il y a une ambiance particulière, voilà. Et ça ne m'a jamais trop tentée. Donc je regarde la course avec nos trois enfants, comme d'habitude. La petite différence qui a changé finalement beaucoup de choses, c'est que mon beau-père, donc le papa de Romain, était là, puisque moi la veille je travaillais à Paris, donc mon beau-père et son épouse avaient gardé les enfants. Et ils étaient venus me les ramener à la maison et je leur avais dit restez regarder la course avec nous, c'est trop bête. En plus, c'est l'antépénultième de Romain puisqu'il arrêtait sa carrière en F1 juste après. Donc autant profiter. Et puis, profiter est un drôle de mot, un drôle
et
de terme.
Et arrive ce que nous avons tous vu voilà. Avec la frayeur qui va avec. C'est un surhomme.
C'est un super héros, en tout cas, c'est le terme qu'on a utilisé puisqu'il fallait bien mettre des mots.
Une maîtrise incroyable. Il
garde son sang-froid. Il a été parfaitement
lucide.
Son pied est bloqué. Il y a 27 secondes qui sont terribles puisque la seule chose, c'est qu'il occulte complètement le feu alors qu'on voit clairement à l'image qu'il est en train de brûler. Mais son cerveau a complètement occulté ça et c'est ce qui lui a permis de ne pas paniquer.
Il arrive à sortir sa jambe, son pied de la chaussure.
Il essaye plusieurs fois de se redresser, il n'y arrive pas. Et finalement, il tire parce qu'effectivement, sa jambe est complètement bloquée. Et on le voit d'ailleurs sortir en chaussette. Il laisse la chaussure qui aura brûlé complètement dans l'habitacle.
La main est abîmée déjà.
Il a conscience au moment où il plonge les mains dans le feu qu'elles vont brûler. Il le sait, mais il sait aussi que c'est sa seule chance de survivre.
Et il a aussi ce réflexe, cette autre lucidité. Il refuse la civière. Il va à pied jusqu'à l'ambulance avec, entre autres, Yann Roberts qui est là pour l'accueillir. Et là, il tombe sur Jean Todt et qui se propose de vous appeler. Une première fois, vous ne décrochez pas, une seconde. Et là, il vous dit « Moustique, je suis là
». Moustique, tout va bien. Je l'entends au loin puisque Jean Todt n'a pas le droit de trop l'approcher, forcément. Et donc, c'est le président de la FIA qui m'appelle directement. Et il me dit « Je suis à côté de Romain, il va bien ». Et j'entends effectivement la voix de mon mari au loin qui me dit ça. Et là, je fonds en larmes.
Un mot encore, Marion Jolès-Grosjean, sur ces images effectivement que le public n'a pas vues, que vous êtes seul ou quelques-uns à avoir vues. Qu'est-ce qu'on peut en dire en un mot ? Il y a la violence, on sent ces flammes, on est avec lui.
Oui, tout ce qu'il a dit était juste. Moi, ce que j'en retiens, c'est son acharnement à vivre. Je pense que voilà, lui nous explique que ce sont les enfants qui l'ont sauvé et qui l'ont poussé à sortir de la voiture parce qu'il s'est dit qu'il ne peut pas laisser des orphelins. Et je crois que c'est ça que je retiendrai de ces images-là. Il n'a rien lâché. C'est un compétiteur né et on le voit sur ces images.
Une résistance, une envie de vivre absolument, c'est aussi ce qu'on sent, ce qu'on ressent, Marion Jolès Grosjean, dans votre livre, votre premier roman, À Sœur perdue, qui paraît chez City Éditions. C'est le livre, là aussi, d'un combat pour la vie.
C'est le livre d'une résilience, c'est un livre d'amour aussi, familial. Voilà, je pense que j'avais très envie d'écrire, j'ai toujours écrit depuis longtemps. Et je suis proche de ma famille, c'était des liens affectifs qui me touchaient, qui m'inspiraient. Et puis le thème du roman est inspiré également d'une histoire d'une de mes amies.
À Sœur perdue, votre livre, votre premier roman, Marion Jolès Grosjean, à lire pour vous suivre. Merci d'être venu sur Europe 1 ce soir. On a revécu avec vous ce 29 novembre 2020, le combat de votre mari. Romain Grosjean, on va se quitter avec, dans votre playlist, La femme idéale, le portrait de plusieurs femmes en chanson, signé Ben Mazuet. À bientôt.
Matin, crèche, taf, gamin, sortie, presse et dîner, bain, histoire, dans, dodo, câlin. T'as plus le temps, pourtant t'as rien commencé. C'est pas nouveau que tu cours, depuis que t'as plusieurs amours. Depuis que t'as mis au jour, et que le temps vient à te manquer. Le cœur est extensible, tu le sais maintenant. T'y as mis tes enfants, tu rêvais de cette vie, voilà que tu doutes. Tout le monde te dit vas-y, alors tu largues les bouts. Maître sœur, âme sœur, bosseuse en or, mais femme sœur, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. Maître sœur, âme sœur, bosseuse en or, mais femme sœur, tu verras. Plus le temps passera, plus tu sauras. D'abord t'as démissionné, les signaux t'ont bien décidé. Mais si, non, ça s'est pas passé comme tu penses. T'es juste paumé, la confiance, elle s'est barrée avec ton actu. Elle est partie depuis le début. Tu dois faire tes choix seul, sans modèle. Ton mec, ta mère, ta sœur, y'a pas d'aide, y'a pas d'aide, tu sais. Maîtresse en paix, âme, sœur, bosseuse en or, mais femme, sœur, tu peux pas. Tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. Maître sœur, paix, âme, sœur, bosseuse en or, mais femme, sœur, tu verras. Plus le temps passera, plus tu sauras. Va trouver qui tu es, vas-y, va te réinventer. Quand ta vie s'est déconnectée, quand tu sais que tu n'es plus sexy, quand tu sais que tu n'es plus. Maître sœur, paix, âme sœur, bosseuse en or, mais femme sœur, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. Maître sœur, paix, âme sœur, bosseuse en or, mais femme sœur, tu verras. Plus le temps passera, plus tu sauras.
Ben Mazuet, La femme idéale.
Europe Soir Weekend, Fabienne Lemoyle.
Il y a 18h51, nous voici presque à 2h du coup d'envoi de la finale de l'Euro Angleterre-Italie. Dans un instant, on va aller prendre le pouls de l'ambiance à Londres et à Rome.
Europe Soir, Fabienne Lemoyle.
Et nous voilà à 2h du coup d'envoi de la finale de l'Euro Angleterre-Italie. On va aller prendre le pouls de l'ambiance à Rome et bien sûr d'abord à Londres. À Londres, je le signale hein, d'ailleurs, juste un résultat. Là, on entend les supporters de foot, mais à Wimbledon, Djokovic qui a été sacré pour la 6e fois et qui égale le record de 20 titres du Grand Chelem quand même. Et d'ailleurs, il a battu en finale un Italien, Matteo Berrettini. Faut-il y voir un signe ? Je ne sais pas. Bonsoir Jean-François Pérez.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Les supporters anglais, on les entend, ils sont arrivés très tôt ce matin aux abords du stade de Wembley en tout cas.
Ah oui, ça fait des heures qu'ils sont là, des femmes, des hommes, des enfants, des adultes, des grands-parents, même parfois le maillot de l'équipe nationale sur les épaules, certains avec le drapeau anglais comme une cape d'autres habillés en chevalier, le tout dans les champs et la bière évidemment. Comme l'a intitulé la BBC, c'est le jour du destin aujourd'hui pour un football qui n'a rien gagné depuis 55 ans. Cette Coupe du Monde en 1966, souvenir qui a un peu jauni et auquel cette génération de joueurs a quasiment le devoir de succéder. We can be heroes, titre le Sunday Mirror. C'est un jeu de mots sur Harry Kane, le capitaine et buteur de cette équipe d'Angleterre. Il peut en effet ce soir devenir un héros et il en est conscient. Écoutez-le.
Oui, quel moment génial, hein. Je suis très fier, j'espère vraiment qu'on va gagner, même si ça sera un match très dur, une grosse bataille. Alors bien sûr, c'est un atout de jouer cette finale à Wembley, c'est un sentiment très particulier pour nous, avoir les supporters avec nous, toute cette énergie. On va y aller en y croyant à fond pour les rendre tous heureux. C'est un événement formidable pour nous et pour tout le pays, hein, dans son ensemble. On espère vraiment les rendre tous fiers ce dimanche.
Voilà, on attend 65 000 personnes ce soir dans ce temple du foot, dont 80% au moins de supporters anglais. Ouais, l'ambiance s'annonce extraordinaire, hein. La reine d'Angleterre en personne, qui avait remis la Coupe du Monde 1966 à Bobby Moore, eh bien, elle a envoyé un message d'encouragement au sélectionneur Gareth Southgate et aux joueurs. Et sachez aussi que le couple princier William et Kate sera dans les tribunes. La demi-finale face aux Danois avait été regardée, Fabienne, par près de 30 millions d'anglais. Dingue. Et on pourrait battre ce soir un record d'audience absolu.
Eh bien, avec tout ce que vous nous dites, on se demande comment l'Italie va tenter de remporter son deuxième titre de champion d'Europe.
Bah, ils essaient de rester sereins. Ils sont arrivés hier à Londres, les Italiens, en provenance de Florence. Les Britallians, ces citoyens britanniques d'origine italienne, devraient être de 8 à 10 000 dans les tribunes, sans compter les 1000 tifosi qu'on voit. Là, déjà, ils sont là, ils sont arrivés, qui ont accepté de débourser près de 800 euros pour un déplacement express sous sévère escorte sanitaire. Aucun contact avec le reste du monde. Alors, ce soutien ne sera peut-être pas de trop pour des Italiens séduisants puis résistants dans ce tournoi. Ont-ils peur de ce contexte? Question posée au milieu de terrain du Paris Saint-Germain et de la Squadra Azzurra, Marco Verratti.
On a vu leur demi-finale tous ensemble. C'est une équipe très physique, avec des joueurs très brillants aussi techniquement. Ils ont mérité de jouer cette finale, incontestablement. Alors de la peur avant cette finale, je n'en sais rien. Bien sûr que ça va être un match très difficile, c'est une finale et les deux équipes voudront vaincre pour leur pays. On va donc affronter cette grande équipe d'Angleterre qui jouera chez elle, dans son stade. Pour nous, c'est un rêve et on a très envie qu'il devienne réalité.
Voilà, et comme chez les Anglais, c'est une équipe quasiment au complet qui sera alignée avec une statistique imparable. 4 fois les Italiens ont croisé la route des Anglais dans un grand tournoi pour un match à élimination directe. 4 fois, ils se sont imposés, de quoi donner confiance à tout un peuple.
Effectivement, merci Jean-François Pérez. Et verdict donc ce soir à partir de 21h. Vous serez aux commentaires, bien sûr, avec Cyril de la Morinerie dans cette ambiance de folie. Et ben, on va aller voir comment ça se passe à Rome. Bonsoir Blandine Hugonnet.
Bonsoir Fabienne.
Correspondante d'Europa en Italie, on vient d'entendre la folie à Londres. Ça ne fait pas trop peur aux supporters italiens? Ça ne leur met pas la pression, même si, on a vu, hein, les statistiques sont favorables aux Italiens?
Oui, alors en général ici, hein, quand il s'agit de foot, il y a une très grosse superstition. Donc il y en a beaucoup qui ne veulent surtout pas faire de pronostics. Ça porterait malheur de se dire déjà vainqueur face aux Anglais, que les Italiens voient évidemment comme de réels adversaires. En même temps, certains tifosi m'ont dit aujourd'hui que c'est finalement peut-être une chance pour la Squadra Azzurra de jouer sans la pression d'être à domicile. On essaye de se convaincre. Après tout, me disent les Italiens, la Nationale en est à 33 matchs d'affilée sans défaite. La plupart, évidemment, restent vraiment confiant ici à 2 heures du coup d'envoi, comme Alberto et Gianluca. On les écoute.
On va gagner, c'est sûr. Mais c'est déjà une belle performance pour nous d'être arrivés en finale. De toute façon, c'est l'équipe italienne qui a le plus beau jeu, le plus complet.
Du coup, c'est quoi l'ambiance dans la fan zone ou aux abords, hein, parce que je crois que c'est un peu compliqué d'y entrer, effectivement.
Oui, alors effectivement, ben, les tifosi commencent à arriver en masse, hein, sur cette place du peuple. C'est dans le centre historique de Rome, ça klaxonne, ça chante. Déjà, le peuple italien plus qu'enthousiaste, évidemment, pour cette finale. Et qu'ils suivent donc ici, à distance bien sûr, sur les 2 écrans géants installés depuis 1 mois. Les mesures contre le Covid sont toujours en vigueur en Italie. Alors pour respecter les distances, seuls 1000 supporters maximum ont le droit d'accéder à cette énorme fan zone. On arrive rarement avec les masques, mais surtout avec les maquillages, les drapeaux, les chapeaux tricolores, la tenue de gladiateur romain, le maillot bleu de la Squadra Azzurra, et en croisant les doigts pour que l'équipe offre ce soir aux Italiens un deuxième titre de championne d'Europe depuis plus de 50 ans.
On espère tous que ça va bien se passer. L'Italie a fait un très bel euro en jouant très bien, donc on mérite de gagner ce titre. Mais le foot, c'est beau aussi parce qu'on ne sait jamais comment ça va se terminer. Mais on peut déjà dire que l'Italie a démontré qu'elle était surtout une équipe unie.
Voilà, quoi qu'il arrive, le parcours de l'équipe italienne et la célébration de cette passion du foot chère aux Italiens, c'est déjà une victoire pour l'Italie.
Eh bien, ça promet une belle soirée en perspective à Rome et à Londres, évidemment. Merci, Blandine Gonnet. Alors, Marlène Duret, je ne vais pas vous demander s'il va faire aussi chaud demain en France. Qu'en est-il du côté des plages ?
Sur les plages du Nord et de la Manche, le temps sera en effet agité et frais pour la saison. Pas plus de 19 degrés au thermomètre et la température de la mer toujours comprise entre 15 et 18. Allez, un petit peu mieux vers la Bretagne avec de belles éclaircies le matin avant le retour des averses l'après-midi. Le long de l'Atlantique, ce ne sera pas non plus un temps à faire des pâtés de sable. Le temps tournera rapidement à l'averse orageuse sur les plages charentaises où l'on prévoit 19 degrés sur le sable. La température de l'eau ne dépassant pas les 20 degrés. Ce temps instable se prolongera jusqu'au littoral des Landes, grosso modo jusqu'à Biscarrosse. En direction du Pays Basque, en revanche, le ciel sera plus dégagé ce lundi. Saint-Jean-de-Luz affichera seulement 18 degrés au thermomètre et 21 dans l'eau. Allez, en Méditerranée, là, c'est du côté de la Côte d'Azur que les conditions seront les meilleures. Allez, je pense à Saint-Tropez. La mer sera à 23 degrés, prévoyez 27 sous le parasol. Autour du golfe du Lion, le ciel s'annonce plus variable et carrément bouché du côté de Palavas-les-Flots. La température de l'eau dans toute cette frange du littoral avoisinera les 20 degrés, mais nous aurons les 23, 24 sur la Riviera. La Corse n'a rien à craindre, c'est du grand beau temps, 27 degrés à l'île Rousse, jusqu'à 35 à Propriano, et vous nagerez dans une eau à 24 ou 25 degrés.
Merci beaucoup Marlène Duret.
Europe Soir Weekend.
C'était un vrai bonheur de vous accompagner dans ce 18-19 de l'été ce week-end. Un grand merci à Sébastien Guyot pour la rédaction en chef, Capucine Patouillet et Valérie Danon pour la coordination et la programmation, Aurélia Bay en régie.